Et c'est le journal de Valentin Bertrand. Bonjour Valentin.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La France et l'Allemagne s'engagent à construire main dans la main le char du futur. Un projet européen bloqué depuis des années mais relancé par la montée des tensions internationales.
Quelle note pour la dette de la France? Deux agences rendent leurs évaluations ce soir.
Et puis nous irons aux États-Unis où l'annulation d'une des deux condamnations du producteur Harvey Weinstein provoque l'indignation de collectifs de victimes. Construire une défense européenne crédible, c'est l'un des grands objectifs dressés hier par Emmanuel Macron lors de son discours sur l'Europe à la Sorbonne. Alors que l'Ukraine est en guerre depuis 2 ans et que le risque d'embrasement est décuplé au Proche-Orient, le chef de l'État prône l'autonomie stratégique des 27, autrement dit, éviter de fonder la sécurité de l'UE sur la dépendance vis-à-vis d'autres grandes puissances comme les États-Unis. Dans les prochaines années, ce sera peut-être l'un des emblèmes de cette souveraineté militaire, le char franco-allemand du futur. Doit franchir aujourd'hui une étape majeure. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et son homologue allemand doivent signer un accord sur son financement. Ce sera 50-50 pour ce nouveau blindé doté des dernières avancées technologiques. Un projet dans les cartons depuis 2017 qui s'est, depuis, heurté à de nombreuses difficultés et tensions entre Paris et Berlin. Sébastien Baer.
Longtemps, le dossier s'est trouvé freiné par les rivalités entre Paris et Berlin et les difficultés à s'accorder sur les caractéristiques du char. L'irruption dans le projet du groupe d'armement allemand Rheinmetall en 2019 a encore compliqué les choses. Mais après des discussions qualifiées de longues et difficiles, les deux pays sont finalement parvenus à s'entendre. Les industriels français et allemands se partageront le travail à parts égales. Le char du futur sera équipé de drones, de missiles et de batteries de tir. Les technologies développées permettront de le piloter à distance et la connectivité renforcée rendra possible des partages d'informations en temps réel, non seulement avec les unités terrestres, mais également navales et aériennes. L'intelligence artificielle jouera aussi un rôle dans ce projet d'envergure qui marque, selon Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, un saut de génération en matière technologique. Si tout avance comme prévu, le char du futur devrait voir le jour à l'horizon 2040 et remplacer à terme les chars Leclerc français et les Léopard 2 de l'Allemagne. Initié en 2017, le projet a été lancé en même temps que le SCAF, l'avion de combat du futur, un autre symbole de la coopération entre l'Allemagne et la France, mais ce programme est à la peine en raison de nombreux désaccords.
Sébastien Baer, correspondant de France Culture à Berlin. Gérald Darmanin soutient l'extension des couvre-feux pour les mineurs. Le ministre de l'Intérieur en a instauré un à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe la semaine dernière pour tenter d'enrayer une flambée de violence. Depuis, plusieurs communes lui ont emboîté le pas, Béziers dans l'Hérault, Penne-Mirabeau dans les Bouches-du-Rhône. Et le maire de Nice, Christian Estrosi, en a annoncé un pour le mois prochain. C'est l'échéance redoutée depuis plusieurs semaines par l'exécutif. Les agences de notation Fitch et Moody's rendent ce soir leurs évaluations sur la dette de la France. Le scénario redouté, c'est une note revue à la baisse, synonyme d'emprunt plus cher. Car depuis le début de l'année, Marie Viennot, les mauvaises nouvelles économiques et budgétaires s'enchaînent.
Croissance inférieure aux prévisions, recettes fiscales en berne, déficit et dette bien plus élevés qu'annoncés. Et malgré cela, le gouvernement n'a pas changé son objectif. Il veut toujours maintenir le déficit de la France en dessous des 3% du PIB en 2027. Le tout grâce à un effort inédit de maîtrise des dépenses. Tout est consigné dans le programme de stabilité envoyé à la Commission européenne. Alors nul doute que les agences de notation auront regardé ce programme à la loupe. Le problème, c'est qu'on ne voit pas comment les agences de notation pourraient avoir une analyse diamétralement opposée à celle du Haut Conseil des Finances Publiques. Il y a 10 jours, ce comité composé de magistrats de la Cour des Comptes, de quelques économistes et du directeur de l'INSEE a publié un avis très sévère sur les prévisions budgétaires du gouvernement jusqu'en 2027. Manque de crédibilité, manque de cohérence, documentation des économies lacunaires. À ces mots, le FMI a ajouté des chiffres qui décrédibilise également les projections du gouvernement, puisqu'il estime, lui, qu'en 2027, le déficit public de la France atteindra 4,3% du PIB, bien loin des 2,9% promis. Les deux agences de notation elles-mêmes ont déjà exprimé leur scepticisme à ce sujet. Voilà pourquoi ce serait une surprise si la note qu'elles attribuent à la dette de la France restait ce soir inchangée.
Un nombre record d'agressions et d'incivilités contre les agents France Travail, le nouveau nom de Pôle emploi. 16 000 signalements ont été effectués l'année dernière, d'après un document interne, soit une augmentation de 12% en un an. Parmi les faits remontés, il y a aussi les intentions suicidaires exprimées par les demandeurs d'emploi. Elles ont été multipliées par 3 en 5 ans.
6h35 sur France Culture, la suite du journal de Valentin Bertrand. L'Égypte espère encore obtenir une trêve à Gaza.
Le pays envoie aujourd'hui une délégation en Israël pour tenter de négocier une pause dans les combats contre l'échange. La libération d'otages israéliens ces dernières heures. L'armée israélienne a pourtant intensifié ses frappes et assure préparer une offensive contre la ville refuge de Rafah, malgré les mises en garde répétées de la communauté internationale. La chasse à la corruption se poursuit en Ukraine. Le ministre de l'Agriculture, accusé de s'être approprié des terrains de l'État, a présenté sa démission. Nicolas Slotsky était devenu ministre en 2022 au moment du déclenchement de la guerre par la Russie. Un coup de tonnerre judiciaire à New York. La plus haute cour de l'État a annulé hier l'une des condamnations d'Harvey Weinstein, l'ex-mania d'Hollywood, condamné en 2020 à 23 ans de prison pour des accusations de viol et d'agression sexuelle. Il a ensuite été à nouveau condamné pour les mêmes faits en Californie. Harvey Weinstein, 72 ans, va donc rester derrière les barreaux. Mais il devra donc être rejugé pour la première affaire, décision qui a provoqué l'indignation des collectifs de victimes à New York. Loïc Loury.
C'est une trahison institutionnelle, affirme Ashley Judd à propos de l'annulation de la condamnation d'Harvey Weinstein. L'actrice avait été la toute première à dénoncer auprès du New York Times le comportement de l'ex-producteur. Voilà ce que c'est que d'être une femme en Amérique, vivre avec des hommes qui pensent avoir des droits sur nos corps. Dépit également pour Tarana Burke, la fondatrice du mouvement MeToo, plus de 10 ans avant le procès Weinstein. Nous sommes dévastés pour les survivantes qui avaient trouvé du réconfort, une forme de catharsis dans cette condamnation. Beaucoup d'entre nous pensaient que nous étions sur la voie d'une nouvelle Amérique, mais ce moment nous fait sentir que nous avions tort. L'avocat de l'intéressé Arthur Aidala, en revanche, se félicite. Harvey Weinstein n'a pas eu le droit à un procès équitable. Personne n'est au-dessus de la loi, mais personne n'est en dessous. On ne peut pas ignorer un siècle de précédents légaux juste parce que quelqu'un est impopulaire. Son client reste toutefois en prison, mais doit être transféré en Californie où il a été condamné pour viol, en attendant le résultat d'un appel et un nouveau procès éventuellement à Manhattan.
La production de vin amputée par les aléas climatiques. Au niveau mondial, les embouteillages ont reculé de 10% l'année dernière selon les chiffres de l'Organisation internationale du vin. Cette baisse s'explique surtout par la multiplication des sécheresses, des vagues de chaleur et des épisodes de gel précoce. On termine par un mot de météo avec deux nouvelles perturbations pluvieuses qui arrivent, l'une par l'Atlantique, l'autre par la Méditerranée. Dans l'après-midi, les averses parfois orageuses vont se généraliser. Seul le sud de l'Occitanie devrait passer entre les gouttes. Les températures, elles sont comprises ce matin entre 3 et 7 degrés en général, entre 7 et 11 sur la côte. Et cet après-midi, on attend de 13 à 16 du nord au sud et de 17 à 19 en Occitanie et en Corse.